Radio France Internationale, il est 7h30 à Bukavu, 5h30 en temps universel. L'actualité africaine avec Paul Lonsin-Spinelli. Bonjour Paul.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
À la une, la progression du M23 soutenue par le Rwanda vers Uvira dans l'est de la RDC.
Il s'agit de la deuxième plus grande ville du sud Kivu, la capitale de la province Bukavu. Elle est passée sous contrôle du groupe armé et des troupes rwandaises le week-end dernier. Uvira, qui a été le théâtre hier d'accrochages entre miliciens Wazalendo et militaires congolais, des scènes de pillage ont aussi été signalées. Le drapeau ivoirien hissé pour remplacer celui de la France ce matin à Port-Boué. La base sera rétrocédée à l'armée ivoirienne au terme d'une cérémonie organisée à Abidjan. Certains soldats ivoiriens y ont déjà pris leur quartier et s'entraînent en recevant les conseils d'homologues français. Une cellule affiliée à Daesh au Sahel démantelée au Maroc. Des opérations ont été menées dans 9 villes différentes. Et puis son cinéma de révolte, parfois de colère, était devenu une source d'inspiration en Afrique. Le réalisateur malien Souleymane Cissé est décédé hier à 84 ans. L'offensive du M23 soutenue par le Rwanda se poursuit en direction d'Uvira dans l'est de la République démocratique du Congo. Après s'être emparé de Bukavu le week-end dernier, le groupe armé et les troupes rwandaises avancent désormais vers la deuxième grande agglomération du sud Kivu, une ville qui a vécu hier une journée d'affrontements et de pillages. Alexandra Banjon.
Dès 7h hier matin, des tirs sporadiques ont éclaté dans le centre d'Uvira. Il s'agirait d'accrochages entre miliciens Wazalendo et militaires congolais, explique cet habitant.
Il y a eu des coups de balle, encore des affrontements entre certains Wazalendo et des militaires FARDC qui quittaient la ville d'Uvira. Certains Wazalendo se sont maintenant attaqués au FARDC. Les affrontements ont commencé jusqu'aux environs de 16 heures. Il y avait encore des coups de balle qui se faisaient à travers dans la ville.
Les portes de la prison centrale ont été détruites et plusieurs centaines de détenus se sont évadés. D'importants pillages de commerces et particuliers ont été signalés à travers la ville, impliquant des hommes armés, parmi lesquels certains militaires, ce qui a créé la panique, explique cet autre habitant.
Des pillards, il y a des détenteurs d'armes qui sont en train de passer maison par maison pour demander à la population de remettre l'argent des téléphones. Et si vous n'en avez pas, on vous tire dessus et ça inquiète jusqu'à ce que notre population est en train d'abandonner la ville.
Hier soir, le calme était revenu à Uvira. La majorité de la population a fui vers le Burundi ou par bateau en direction de Kalemie, chef-lieu de la province du Tanganyika. Contactés par RFI, les autorités congolaises n'ont pas réagi.
Alexandra Branjon. Hier, pour la troisième fois au cours des dernières semaines, le conflit dans l'est de la RDC s'est retrouvé au cœur des discussions au Conseil de sécurité de l'ONU. Les États membres n'ont pas pris de décision concrète. Ils se sont contentés de dénoncer une nouvelle fois les violences et appeler le M23 et les forces rwandaises à cesser les combats. Pour la chef de la diplomatie congolaise, c'est insuffisant. Thérèse Kayikwamba-Wagner a réclamé lors de son discours devant le Conseil le vote d'une résolution imposant un embargo sur les exportations de ressources naturelles en provenance du Rwanda. La ministre des Affaires étrangères de RDC réclame aussi des sanctions contre les responsables militaires et politiques rwandais. Écoutez un extrait de sa prise de parole.
Le Rwanda prépare un carnage à ciel ouvert avec une brutalité qui rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Le 26 janvier, j'avais prévenu. Aujourd'hui, ces mots sont réalité. En 48 heures seulement, plus de 4000 morts à Goma. Voilà ce qui se passe quand un groupe terroriste prend le contrôle d'une ville et impose son administration criminelle sous le regard de ce conseil. Assez de prétextes, assez de relativisme culturel derrière lequel se cache un attentisme aux conséquences tragiques. Le temps des compromis interminables est révolu. Il est temps d'agir.
Thérèse Kayikwamba-Wagner, la chef de la diplomatie congolaise.
RFI à Abidjan. 97.6 FM.
C'est un nouveau symbole du retrait de la présence française en Afrique. Une cérémonie est organisée ce matin à Abidjan pour marquer la rétrocession de la base militaire de Port-Boué aux forces ivoiriennes. Seront notamment présents les ministres des armées, le français Sébastien Lecornu et son homologue ivoirien Tene Biraïma Ouattara. Cela fait 2 ans maintenant que les autorités des deux pays se concertent sur la question. La transition se fait en douceur, avec notamment l'installation fin janvier à Port-Boué d'un détachement de parachutistes ivoiriens. Reportage de Binta Diagne.
Ce matin-là, une dizaine de militaires s'exercent au tir couché au sol. C'est leur première séance de tir sur ce site.
L'entraînement se déroule sous l'œil bienveillant de l'adjudant Franck, le moniteur de tir.
On est là pour les conseiller sur le tir. C'est surtout des conseils sur le maintien de l'arme, la prise de visée et la respiration. Peut-être tirer trop vite.
Depuis le 20 janvier, un détachement de 90 parachutistes ivoiriens a pris ses quartiers dans le camp de Port-Boué. Ces militaires y voient deux avantages, l'espace, car il y a là près de 230 hectares, et surtout l'accès aux infrastructures. Capitaine Fabricio Bouekwame, chef du détachement des parachutistes.
Nous avons accès à des infrastructures qui sont toutes sur le même lieu. Ça nous permet de nous entraîner le plus facilement possible pour être prêts opérationnellement.
Les militaires français espèrent achever leur départ d'ici l'été prochain. Une centaine de soldats resteront pour assurer notamment des formations.
L'arme de commandement par excellence.
En janvier, une académie militaire des systèmes d'information et de communication a été créée. Elle accueille actuellement une douzaine de futurs commandants d'unité. Lieutenant-colonel Jean-Clément Balou, le directeur de cette structure.
C'est très important parce que dans le passé, la plupart de nos officiers allaient dans les pays comme la France pour pouvoir se faire former. Et maintenant que l'académie est en Côte d'Ivoire, d'ici un an, deux ans, on aura beaucoup d'officiers qu'on pourra déployer sur le théâtre des opérations.
La Côte d'Ivoire gagne à conserver une expertise française, explique un officier ivoirien qui loue par ailleurs la bonne entente entre les deux parties tout au long de ce processus. Bintadienne Abidjan, RFI.
En Tunisie, elle est apparue affaiblie mais souriante avec ses proches lors de sa libération hier. Siem Ben Sidrine était détenue depuis août dernier. Cette militante, ancienne présidente de l'instance Vérité et Dignité, en charge de la justice transitionnelle dans le pays, a été relâchée à la suite d'une décision de la Cour d'appel de Tunis. Elle reste accusée d'avoir falsifié le rapport final de l'organisation et attend toujours son procès. Une cellule terroriste court-circuitée au Maroc, 12 individus d'un groupe affilié à Daesh au Sahel ont été interpellés alors qu'ils préparaient des attentats. C'est ce qu'ont révélé les autorités sécuritaires marocaines hier. Un démantèlement réussi grâce à des opérations d'ampleur menées en simultané à travers plusieurs régions du royaume. Mathias Reynal.
Drones de reconnaissance, véhicules blindés, unités cynotechniques, les services de sécurité marocains ont déployé les grands moyens. À l'aube, hier, des arrestations et perquisitions ont été menées simultanément dans 9 villes du pays, dont les plus distantes, Tanger et Laayoun, sont à 1200 km l'une de l'autre. Cette cellule terroriste, composée de 12 personnes, était téléguidée par un dirigeant éminent de Daesh depuis le Sahel, assure un communiqué du pôle réunissant la Direction Générale de la Sûreté Nationale et de la Surveillance du Territoire. Des photos prises lors du coup de filet montrent les produits suspects saisis, notamment des engins explosifs improvisés en cours de fabrication, de l'argent liquide et un grand nombre d'armes blanches. Toujours selon le communiqué des autorités marocaines, ces terroristes présumés prévoyaient de cibler des installations sécuritaires et économiques sensibles, mais aussi des intérêts étrangers. C'est la deuxième cellule affiliée à Daesh au Sahel, démantelée au Maroc en moins d'un mois. Le 26 janvier dernier, 4 hommes avaient été arrêtés près de la capitale économique. Mathias Reynal, Casablanca, RFI.
Des arrestations et détentions arbitraires, des enrôlements forcés, voire des actes de torture. La Fédération internationale pour les droits humains et l'Organisation mondiale contre la torture publient aujourd'hui un rapport recensant au moins 61 cas de diverses pratiques répressives au Tchad, au Mali, au Burkina Faso et au Niger et dénoncent la convergence régionale de celles-ci. De nombreux cas de harcèlement et d'attaques ciblées visant des défenseurs des droits humains et voix critiques sont énumérés. Plus de détails à retrouver sur notre site RFI.fr. Le Niger qui avait décidé de chasser Orano l'an dernier. Le groupe minier français a publié hier ses résultats annuels pour 2024. Une année exceptionnelle en termes financiers a tenu à résumer le PDG du groupe avec un bénéfice de 633 millions d'euros. C'est une somme près de trois fois supérieure à l'année précédente. Le chiffre d'affaires, lui, bondit de 23% comparé à 2023. Ce succès, il s'explique par les cours favorables. Il y a eu aussi la signature de ce gros contrat avec le Japon. De quoi compenser les pertes liées à la suspension de son permis d'exploitation par Niamey, Charlotte Cosset.
Une année faste, cependant marquée d'un coup dur.
Il y a eu un événement douloureux qui est la perte de contrôle opérationnel de nos filiales nigériennes.
Nicolas Metz, le directeur général d'Orano.
Ce qui a conduit à la déconsolidation de ces filiales dans nos résultats financiers.
Conséquence, une baisse des résultats opérationnels du secteur mine, mais au final sans impact sur les résultats généraux. Au Niger, Goviex, l'entreprise canadienne qui s'était vue retirer son permis de Madawela, a elle annoncé mardi avoir trouvé un terrain d'entente pour débuter des négociations avec les autorités nigériennes. Nicolas Metz insiste, Orano
Ono a cherché une résolution à l'amiable avec Niamey.
La situation est un peu différente pour nous, c'est que nous ne parvenons pas à entamer des discussions avec l'État du Niger, qui refuse catégoriquement de nous adresser la parole, que ce soit en présence, par écrit ou en vidéo call. C'est ce qui nous pousse à poursuivre nos démarches juridiques et nos arbitrages internationaux. Important de préciser que dans le cadre de ces arbitrages, on se réserve également le droit d'initier toute autre action, y compris contre des tiers, en cas de préemption de la matière présente sur site en violation de nos droits d'enlèvement.
La production d'Orano au Niger représentait environ 15% total du groupe qui travaille pour compenser à de nouveaux projets, notamment en Mongolie, en Ouzbékistan ou en Namibie.
Charlotte Cossé, 900 employés restent par ailleurs dans l'incertitude au Niger. Autre inquiétude, le réaménagement du site de la Cominac, l'une des filiales d'Orano. Dans un communiqué paru lundi, la société civile s'inquiète de la suspension des travaux de réaménagement du site et de potentielles conséquences environnementales. Elle s'interroge aussi à propos de l'usage de fonds qui devraient être, selon elle, dédiés à la réhabilitation de ce lieu. Sollicitée sur cette question, Orano n'a pas encore apporté d'éléments de réponse. Sa renommée internationale avait forgé son statut d'icône du cinéma africain. Le réalisateur malien Souleymane Cissé est décédé hier mercredi à Bamako. Il avait 84 ans. À son palmarès notamment, le prix du jury du Festival de Cannes en 1987 pour son long métrage Yélène, la lumière, qui raconte le long parcours initiatique d'un jeune homme issu d'une famille Bambara célèbre. Il était alors devenu le premier cinéaste d'Afrique noire à obtenir cette distinction. Souleymane Cissé, qui devait présider le jury long métrage au FESPACO 2025 à Ouagadougou. Selon Mohamed Chaloud, il doit continuer d'être une source d'inspiration. Le producteur tunisien le connaissait bien, il avait travaillé avec lui et tient à rappeler à l'impact qu'a eu le cinéma engagé du réalisateur malien.
Souleymane Cissé, comme Dikongé Pipa et tant d'autres cinéastes, ont voulu faire du cinéma pour restituer à l'Afrique son humanité et essayer de l'aider dans ce projet d'émancipation du passé colonial. C'est une révolte qu'il faut continuer. Je ne sais pas si les nouvelles générations sont conscientes de ça. Il faut que son patrimoine soit restauré, soit numérisé et soit proposé aux nouvelles générations, parce que nos nouvelles générations ne connaissent pas ce cinéma. Et on ne peut pas avancer à faire du cinéma en Afrique si on ne connaît pas notre patrimoine et nos pionniers, parce que on est en train d'assister à travers les nouvelles technologies et le numérique à une grande production, mais l'esprit engagé du cinéma africain est en train de se perdre. Connaître l'œuvre de Souleymane Cissé va faire beaucoup du bien pour les nouvelles générations et ceux qui veulent faire du cinéma en Afrique.
Mohamed Chalouf, joint par Edmond Sadaka. Tout de suite, RFI Matin avec Marion Casanova.
Merci Paul Lonsin-Spinelli. Il est 6h43 à Paris, 5h43 en temps universel. On passe au sport.